univers virtuel dans lequel on se déplace en trois dimensions et dans lequel on peut interagir avec d'autres joueurs ou d'autres personnages type avatar ou personnages de jeux vidéo. Moi, en considérant que ça rentre dans la catégorie métaverse, ben, je dirais que oui, du coup, pour mon cas en tout cas particulier, on est dans le métaverse parce que les hologrammes, on peut aussi les avoir dans le jeu vidéo. Sur Fortnite, vous avez des concerts d'artistes. Certains ont rassemblé jusqu'à 12 millions de joueurs ou de membres du public sur ces concerts. Les artistes donc comme Eminem ou le groupe canadien The Weeknd, ils sont donc ils se produisent sous forme d'avatar. Ils pourraient aussi se produire sous leur forme réelle entre guillemets, sous forme d'hologramme.
Ok, merci beaucoup. On va revenir sur les différents types d'expériences. Est-ce que vous êtes peut-être, Antoine, vous disiez vous ouvrez des lieux. Ça a l'air assez exponentiel, assez massif. Vous êtes aujourd'hui cantonné à des lieux comme ça? Là, on voit qu'il y a des QR codes autour de nous. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être plus temporaires? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se monter plus facilement? Comment ça se profile aussi
Alors l'expérience que vous avez vécue aujourd'hui, elle nécessite une installation assez importante. Vous pouvez le voir autour de vous, c'est quand même pas mal de travaux qui ont été nécessaires. Il y a des marqueurs un peu partout sur le sol, sur les murs. Il y a un système de lumière qui est assez strict en fait, et un parcours utilisateur qui est assez défini. Donc un lieu comme celui-ci, non, quand on l'ouvre, c'est pas pour 4 mois. Il faut rester un petit peu, sinon c'est compliqué d'en faire quelque chose de profitable. Maintenant, il y a une autre ligne de business qu'on est en train de développer chez Eclipso et qui va nous permettre justement de jouer des expériences immersives en réalité virtuelle en free roaming et de les jouer sur une technologie qui permettra d'être un peu plus flexible et du coup d'aller s'installer de façon plus temporaire et plus facile dans certains lieux dans lesquels on ne serait pas allé avec ce type de lieu. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous ouvrez une salle comme celle qu'on a aujourd'hui à Bercy Village, pour que ça marche, il faut quand même recevoir au moins une dizaine de milliers d'utilisateurs par mois. Et ça, on peut le faire à Paris, on peut le faire à Londres, on peut le faire à Bordeaux. C'est un peu plus compliqué à Dunkerque. Mais à Dunkerque, on aimerait bien pouvoir montrer toutes ces belles œuvres. Donc ça va devenir, en tout cas nous, on va être capable de le faire. Mais aujourd'hui, non, quand on ouvre une salle, c'est périn et ça se passe ici, ça se passe pas ailleurs, en ce qui nous concerne.
Et simple curiosité, c'est de la publicité, du bouche à oreille, des campagnes de promo pour le fait que vous ayez autant de visiteurs.
Le bouche à oreille est extrêmement important. Nous, on est confronté à un des gros challenges dès qu'on ouvre une nouvelle ville, un nouveau centre, c'est que le public comprend difficilement en fait ce qu'on propose dans nos salles. Comme je l'ai dit, c'est très souvent assimilé encore à la réalité virtuelle à du jeu vidéo. Il y en a des très bons, mais ça ne capte pas tout le public que nous on cherchait à avoir. Vous venez à la sortie de nos centres, c'est beaucoup des familles, c'est beaucoup des groupes d'amis. Certains viennent ici, n'ont pas toujours pas compris en fait qu'il fallait mettre un casque sur la tête. Pourquoi? Parce que quand justement on le market, on parle pas forcément, on met pas forcément en avant la réalité virtuelle. On parle d'expéditions immersives dans le cas des œuvres de Excurio. On parle de on parle d'exposition, on parle d'expérience. Et donc on met ça en avant pour que les gens viennent. Donc il y a beaucoup de marketing en ligne pour les faire venir, mais surtout après évidemment on compte sur le bouche à oreille, on compte sur le fait que nos visiteurs parlent de l'expérience assez unique qu'ils ont vécue pour du coup faire venir d'autres personnes. Donc oui, le bouche à oreille est extrêmement important dans notre situation.
Ok, merci. Marie, peut-être revenir sur ce que vous disiez avec des expériences que je dirais, entre guillemets, je le dirais avec mes mots, hein, vous m'en prenez, mais peut-être plus souples à mettre en place dans des bibliothèques, parce que les dispositifs semblent plus simples, parce que la technologie est peut-être pas la même, et il y a peut-être une réplicabilité de l'expérience qui est plus simple. C'est quoi la réception aujourd'hui des bibliothèques? Vous le faites dans beaucoup de bibliothèques?
Mais on est au début, ouais.
On est au début?
En fait, on est au début de cette expérience. Je ne vais pas en faire l'historique, mais en gros, c'est un projet qui a commencé quelque part en 2019, je crois. L'idée, c'est qu'on s'est aperçu, et c'était encore l'époque où les producteurs de contenu réfléchissaient assez peu en fait, à leur propre modèle de diffusion. Il y a vraiment un changement dans le statut de producteur comme moi, c'est-à-dire des gens qui sont très alignés sur le modèle audiovisuel. La réflexion autour de la distribution, on l'a jamais pensé totalement. Bibliocat, c'est le projet où on a commencé à y penser totalement. Et du coup, notre souplesse, elle induit pas qu'il y a une ingénierie, une petite ingénierie derrière, mais c'est partiellement la nôtre. Je m'explique. On a un kit dans lequel on met 3 tablettes, c'est des iPad Pro qui ont un scan dynamique qui s'appelle le LiDAR. Donc on n'est pas obligé de mapper toute la pièce préalablement et on peut poser des marqueurs qui sont des marqueurs libres, c'est des feuilles blanches sur lesquelles il y a des lettres posées. Et l'installation pour le bibliothécaire, ça lui prend à peu près 10 minutes de faire un parcours très très simple qui va durer une demi-heure pour les enfants. Il pose un livre, il met 2 indices au sol avant et nous on est capable de, par exemple pour l'épisode 1, c'est Timothée de Fombelle, un auteur jeunesse super, qui raconte ses lectures d'enfance et il dit pour moi les bibliothèques c'est comme des forêts, donc on fait pousser une forêt au milieu de la bibliothèque. Il se trouve que l'iPad fait son boulot d'iPad et qu'il arrive à prendre en compte l'étagère, il arrive à travailler avec des volumes qui sont extrêmement satisfaisants et beaux à voir. Les enfants, ils sont pris, eux, dans une navigation libre, ils sont totalement autonomes, il n'y a personne pour les suivre. Le bibliothécaire, ça ne lui demande pas de devenir un expert de l'immersion, ça lui demande de faire son boulot à la fin, une fois qu'ils ont entendu parler des livres de l'écrivain jeunesse, le bibliothécaire va faire son travail qui est de conseiller les livres et de pouvoir approfondir un petit peu ce qu'ils ont découvert. Et sur notre modèle, là où il est, je pense, en matière de public intéressant, c'est qu'on va chercher, on a construit une expérience pour un type de lieu extrêmement spécifique qui a déjà l'expérience de partage, en fait. Les bibliothèques, c'est des réseaux, ils partagent eux déjà du savoir-faire pour montrer des Fab Labs, pour montrer des contenus innovants. Ils savent déjà partager entre eux, c'est des réseaux qui sont 5-10 bibliothèques parfois plus grands. Ils ont déjà l'expérience et le savoir-faire du partage. Donc nous, notre modèle, il est souple dans la techno, il est souple dans la mesure où on peut rester 3 semaines à un endroit, puis 1 semaine à un autre en fonction de l'intérêt de chacune des bibliothèques. Il n'y a absolument aucune contrainte technique imposé à la bibliothèque en matière matérielle, etc. Mais ce qui prend du temps, c'est de construire ce réseau-là pour qu'on ait une démarche pérenne et qu'après l'épisode 1, il y a un épisode 2, un épisode 3. Et quelque part, on est très souple et on ne l'est pas tout à fait dans la mesure où c'est un chemin long à tracer, mais une fois qu'il est fait, une fois qu'on a l'expertise et qu'on en a diffusé un et que ça a marché, on peut revenir très régulièrement. Ça ne veut pas dire que ça correspond et que toutes les bibliothèques de France peuvent accueillir ces 7000 établissements quand même. Ça ne veut pas dire que tous doivent avoir des offres immersives, ça ne veut pas dire que tout doit aller vers les bibliothèques, ça veut juste dire que c'est un réseau pour un type de contenu extrêmement intéressant dont on peut valoriser les missions. Voilà.
C'est quel type de financement ? Il y a un financement...
Alors,
départemental, régional, national.
L'idée, le modèle, il est relativement simple. C'est que là, nous, on a amorcé la création du premier épisode avec un coproducteur qui est France Télévisions, avec l'aide du CNC, le Centre National de la Cinématographie, qui est très actif dans le soutien à la création audiovisuelle et immersive, et dans le jeu vidéo également. Il y a plein d'autres partenaires, notamment le Centre National du Livre, France 2030, qui sont rentrés dans le projet de diffusion. Nous, on diffuse en ce moment à Montpellier dans les réseaux de médiathèques de Montpellier qui en sont extrêmement contents. C'est un travail de distribution qu'on a su faire avec une équipe ultra engagée. L'idée, c'est que d'ici 6 mois, on puisse être dans 10 réseaux et qu'à partir de l'année prochaine, avec ce premier épisode, on puisse être en diffusion nationale et autoportant en financement, c'est-à-dire que sur leur budget d'acquisition numérique, les bibliothèques puissent mutualiser de quoi financer les 4-5 prochains épisodes. Voilà.
Merci beaucoup. Peut-être Anaïs, je ne sais pas si toi tu veux rebondir sur de ta fenêtre avec... Je me demandais simplement ce que peut changer, apporter une techno de vidéo comme tu décrivais ou voilà dans le marché actuel, ce que ça peut...
Alors, on ne s'adresse pas que au secteur immersif, paradoxalement, puisque c'est aussi une technologie qui peut servir à en guise de effets spéciaux ou dans la post-production audiovisuelle en règle générale. Pour ce qui est du secteur, on va parler de donc réalité virtuelle, réalité augmentée. Ce qu'on fait va permettre de démocratiser ou en tout cas multiplier les possibilités d'utiliser de la vidéo volumétrique.